Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin dans Grand Main vous fasse loisir, une émission consacrée au goût de l'effroi en partenariat avec le 1 des libraires. Pourquoi aime-t-on se faire peur en regardant des films d'horreur, des séries effrayantes ou en lisant des romans angoissants alors que nous cherchons dans notre vie quotidienne à nous éloigner du danger? Que recherchons-nous à travers les œuvres de fiction flippantes? Élément de réponse en compagnie de Julien Bisson et de Franck Tillier, le grand maître du thriller en France, qui publie en ce moment Le plaisir de la peur et Labyrinthe. Le standard vous est ouvert. Dites-nous pourquoi cela vous fait du bien de vous faire peur en lisant des thrillers ou en regardant des films horrifiques. 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Tout bronzé, tout beau. Quel est le menu de votre chronique philo?
Alors désolé, moi je vais rabattre un peu le frisson puisque moi je vais vous parler des dangers de la peur. Voilà, la peur ne fait pas plaisir.
Bonjour Guillemette Todisino. Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre ami cette semaine?
Un jeune homme qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa maman.
Ben oui. Bonjour Maïa Mazorette.
Salut Ali.
Qui préfère que je la tutoie tout au long de l'émission.
Bonjour.
Sinon ça va mal se passer pour moi.
Très très mal.
Quel est le menu?
Tu vas avoir très peur.
Quel est le menu de ta chronique sexe en fin d'émission?
Comme d'habitude, je suis très scolaire, on parle du plaisir de la peur, donc je vais parler du plaisir de la peur.
A tout à l'heure en fin d'émission, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Et je n'oublie pas notre chef Grégory Cohen, notre chef du vendredi, qui nous proposera tout à l'heure une recette à partager cette semaine. Enfin, il arrive, il sort aujourd'hui, votre livre de cuisine appétissant, ça s'appelle Partage, 70 recettes simples et conviviales aux éditions de La Martinière, des recettes issues de notre collaboration dans cette émission.
Bah, c'est un livre, en fait, exactement comme son nom l'indique. On l'a fait simple, il s'appelle Partage. Vous m'avez fait l'extrême amitié d'écrire toutes les introductions. On l'a divisé en 9 chapitres, le dîner entre amis, l'apéro, le brunch, enfin bref, toutes les recettes simples pour qu'on puisse recevoir de façon conviviale et sympathique. Et donc, merci Ali, parce que vous avez écrit toutes les intros et c'est vraiment adorable.
Et on y retrouve les recettes du confinement, du premier confinement, et puis toutes vos recettes, enfin quelques-unes, vous avez sélectionner quelques recettes du vendredi. Guillemette Todisino, vous léchez les doigts hein, en le feuilletant. Hein.
Oui, absolument. Alors, ce n'est pas parce que je vous aime, hein, Ali et Grégory, et ce n'est pas non plus parce que j'ai peur de perdre ma place. Non, ce bouquin est épatant. Vous savez, le nombre de bouquins de recettes, où en fait, au bout de 2 secondes, on se dit « Bon, laisse tomber, je la ferai jamais, c'est compliqué, etc. » Alors, je vous laisse trouver, chers auditeurs et auditrices, il y a une recette dans le livre, une seule.
Et il y a débat, on n'est pas d'accord là-dessus.
Ouais, hein. Bah évidemment, parce que comment te dire que tu es plus doué que moi en cuisine. Mais bon, il y en a une qui fait un peu vraiment modèle de « Elle est impossible, celle-là, ou elle est trop compliquée. »
Mais le reste, ça va.
Mais tout le reste, c'est une merveille. Moi, j'aime particulièrement le premier chapitre, « Le goût de l'enfance ». Alors, j'ai déjà fait, par exemple, le flan aux œufs. Au lieu d'aller là dans toutes les boulangeries maintenant à la mode là qui vous fourguent du flan aux œufs à 56 euros la part, faites-le à la maison, il est épatant. Et les croquettes de poisson, elles sont dingues. Non mais j'ai commencé tout page après page.
Partage aux éditions de La Martinière. Au menu ce week-end
On va faire en fait, on va préparer, les beaux jours arrivent, donc on va faire 3 petites recettes super rapides d'apéro pour casser cette spirale infernale de la carotte qu'on vous met devant vous pour l'apéro.
Et les tomates
des
cerises.
Amis qui arrivent, les tomates cerises et puis les petites
et
olives.
Les bananes de concombre.
Tiens, Juliette est très embêtée, Grégory Cohen. Ah. Je fais toujours trop de pâtes et c'est un crève-cœur de les jeter. Quelques idées pour les accommoder.
Ah bah Juliette, alors il y a 2 solutions. C'est soit les pâtes sont nature, et auquel cas, moi, chez les Cohen, on fait l'omelette aux pâtes. Alors l'omelette aux pâtes, c'est comme une tortilla.
C'est bon ça?
Ah, c'est canon. C'est comme une tortilla, mais avec des pâtes. Et c'est, vous connaissez, c'est super bon.
Chez les auditions, on fait des gratins alors, tout bêtement, mais...
On va mélanger des œufs, on va rajouter un petit peu d'oignons frais dedans, on va mettre nos pâtes, et on le fait exactement comme une tortilla. C'est une omelette aux pâtes, c'est génial. On peut aussi faire une salade de pâtes si on a des pâtes nature. Et puis alors si les pâtes sont en sauce, là effectivement on va faire un gratin de pâtes, on va rajouter un petit peu de viande ou alors que des légumes supplémentaires. Et puis on gratine au four avec un peu de fromage.
On ne jette pas les pâtes qui restent. Thibaut de Saint-Maurice.
Ah oui, moi je suis d'accord. Voilà. Troisième alternative, on les fait un peu snacker à la poêle avec du beurre. Et ça fait un peu des pâtes sautées, grillées, je crois. Voilà. Voilà.
Merci. C'était ma contribution.
Puisqu'on me demande mon avis, je suis très heureux de le donner.
Bonjour Julien Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous êtes le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Et en kiosque en ce moment, on peut retrouver le 1 hebdo des libraires. Le 1 des libraires. Pourquoi nous aimons la peur? Et pour explorer ce goût de la peur, nous avons le plaisir de recevoir l'un des romanciers les plus lus en France, Franck Tillier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes considéré comme l'un des grands maîtres du thriller. On peut citer Gattaca, Pandemia, Le Syndrome E. Et le nouveau-né, c'est Labyrinthe chez Fleuve Noir. Mais aussi un essai très intéressant, Le plaisir de la peur aux éditions Le Robert et Fleuve Noir dans la collection Secrets d'écriture. Pourquoi révéler quelques-uns de vos secrets comme ça?
Ah bah écoutez, ça fait 20 ans que j'écris, le temps passe très très vite, j'ai écrit 21 romans et c'est vrai qu'au cours de ces 20 années d'expérience, j'ai appris plein de choses qui traînaient un peu à droite à gauche. J'avais des petites notes en disant voilà, on construit telle intrigue de cette manière et j'ai eu le besoin à un moment donné de me dire bah tiens, ce serait pas mal d'essayer de le regrouper. Et ça tombait bien puisque j'ai été contacté par Le Robert, les éditions Le Robert, qui m'ont proposé de faire un peu ce résumé sur ma vie, alors à la fois sur ma vie d'écrivain, c'est-à-dire comment j'en suis venu à l'écriture, pourquoi cette envie de faire peur aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et curieux. Et aussi, il y a une partie du livre qui est réservée à essayer d'enseigner les techniques d'écriture, notamment dans ce genre-là, qui est celui de la peur, à des gens qui veulent écrire, parce que c'est vrai que pendant ces périodes un peu compliquées, il y a eu beaucoup d'envie artistique des gens de changer un peu de métier ou de se laisser aller. Et c'est vrai que l'écriture fait partie aussi des arts qui émergent de cette période.
Et l'art de faire peur, c'est une mécanique de précision qui ne s'improvise pas.
Oui. Alors, il y a toute une mécanique. Alors moi, je suis assez connu dans ma préparation, dans l'écriture de mes romans, pour vraiment avoir une grande phase de préparation, parce que on est dans la mécanique du suspense, et le suspense, c'est quelque chose de très très précis. C'est un peu comme une montre qui comprend beaucoup d'engrenages qu'il faut assembler les uns avec les autres, et surtout, cette montre doit donner l'heure exacte. On est dans le genre du thriller, du suspense. On sait que les gens sont des experts, les lecteurs souvent sont des grands connaisseurs de ce genre-là, et c'est un genre aussi qui repose beaucoup sur la fin. C'est-à-dire qu'il faut que la fin soit réussie. Vous pouvez avoir 580 pages extraordinaires, il manque 20, les 20 dernières sont ratées, c'est tout le livre qui est raté. Donc c'est important de vraiment bien construire le roman.
Julien Bisson.
Et alors pour faire peur aux gens, pour faire peur justement à ces lecteurs qui sont habitués à autant de thrillers, est-ce qu'il vaut mieux être très explicite, c'est-à-dire avoir des scènes vraiment horrifiques avec des descriptions où on se dit « oh là là, on n'a pas du tout envie de lire ça » ou au contraire, est-ce qu'il faut être très mystérieux?
Alors, aujourd'hui, je dirais qu'il faut être très mystérieux, j'en suis convaincu. Alors moi, quand j'ai commencé un peu naïvement à écrire, je me disais, ben voilà, pour faire peur, il faut y aller frontalement et exposer les scènes les plus terribles aux lecteurs pour les faire frissonner. Donc j'avais cette image-là. Donc j'ai créé des histoires policières assez dures où il y avait des scènes de crime et je décrivais les scènes de crime vraiment telles qu'elles étaient, telles que les policiers pouvaient les décrire. Et je me suis rendu compte que finalement, ça ramenait beaucoup les gens à la réalité. Or, quand on lit un roman, il y a quand même cette envie d'évasion, même si on est dans un roman qui parle de notre monde. Et donc, avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fort de suggérer les scènes, de suggérer la peur, parce qu'en fait, ça fait travailler l'imaginaire du lecteur. Et quand on lit un livre, à la différence de quand on regarde un film, il y a cet imaginaire qui fonctionne vraiment de manière très très forte, et chacun se représente ses propres monstres, et c'est ça qui génère en fait la peur chez le lecteur.
C'est des peurs différentes, la terreur, l'angoisse, le suspense.
Oui, bah il y a différentes formes dans ce qu'on appelle la peur. Je crois que c'est Freud qui divisait en trois parties. Il y a l'effroi, c'est-à-dire en fait l'effroi c'est l'immédiateté, c'est-à-dire le fait d'être surpris sans avoir, c'est le chat noir qui va traverser d'un seul coup l'écran. Il y a l'angoisse, c'est la préparation quelque part on se prépare à un événement qui nous fait peur à nous-mêmes. Et puis la peur en fait que définit Freud, c'est plutôt quelque chose qui est centré sur un objet bien précis, peur du vide, peur du noir. Et donc on essaye de dans les romans ou dans les films, de retrouver ces différentes formes qui vont agir différemment chez un lecteur ou un spectateur.
On va revenir tout à l'heure sur notre plaisir de se faire peur à travers les fictions. Quel est le premier récit qui vous est effrayé quand vous étiez enfant dans votre famille du Nord, qui n'est pas une famille de lecteurs? Les contes de fées, peut-être?
Oui, alors les contes m'ont effrayé, mais je crois que c'est vraiment le propre des contes. Ouais. C'est leur but, finalement. Tous les contes sont effrayants. Hein. Vous lisez Les Trois Petits Cochons, Le Chaperon Rouge, c'est absolument effroyable. Et parce qu'en fait, ce sont faits exprès pour nous confronter à la peur dès qu'on est tout petit, pour nous montrer ce qu'elle est et nous y préparer, parce qu'on va vivre quand même dans un monde où la peur est quand même souvent présente. Et j'ai un souvenir, après, quand j'étais au collège, je crois, en quatrième ou en troisième, un souvenir presque traumatisant du Horla de Maupassant.
Ah oui, le Horla.
Et ça, c'est tout l'art du professeur que j'avais eu à l'époque, évidemment, mais qui m'a marqué parce que justement, il y avait cette notion de ne pas voir le monstre, en fait. C'est-à-dire que tout le long du livre, on soupçonne une présence, mais on ne voit jamais le monstre, on a envie de le voir. Mais en même temps, on ne sait pas qui il est. Et c'est ça qui fait peur, parce que chacun imagine son propre monstre. Et quand on se couche le soir, il pourrait très bien être dans notre chambre.
Et quand vous lisez le Horla aujourd'hui, vous êtes autant effrayé que vous l'étiez quand vous étiez adolescent?
Oui, alors aujourd'hui, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je voulais savoir pourquoi j'avais eu peur. Justement, en essayant de comprendre, en écrivant le plaisir de la peur. Et ça fonctionne encore très très bien. Et vraiment, je l'ai décortiqué un peu à la manière du romancier qui essaye de comprendre. Enfin, qui s'instruit aussi, qui essaye d'apprendre un peu tous les jours. Et ça fait encore très très peur, parce que ça fait appel à énormément à notre imaginaire, hein, ce que je disais, aux présences invisibles, à tous ces bruits qu'on peut entendre quand on se couche, à la peur de l'endormissement, parce qu'on fait des cauchemars, évidemment. Et pendant les cauchemars, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, on est très vulnérable. Donc tout ça est encore énormément d'actualité, et donc ça fait très très peur, oui.
Et puis le grand effroi de l'adolescence, ce sont les romans et les nouvelles de Stephen King, comme Misery ou ça. On écoute Stephen King.
Mon attirance pour tout ce qui était bizarre et étrange, et mon intérêt pour l'endroit où j'ai grandi et les gens que j'ai connus. Vampires, loups-garous, je n'y crois pas. Mais je crois aux assassins. Je crois à l'étranger qui vient cogner à votre porte en plein milieu de la nuit et vous tue. Un vampire est un voleur de vie. Un assassin est un voleur de vie. L'un est la métamorphose de l'autre, mais le vampire est un peu moins dangereux, car nous savons que c'est une histoire, et nous pouvons rire de notre propre peur et dire « oui, j'ai fait semblant un instant ». Mon avis est que le monstre finit toujours par vous avoir.
Stephen King sur TF1 en 1990. Pourquoi Stephen King reste-t-il pour vous encore et toujours le maître du frisson et des sueurs froides ?
Oui, alors déjà, je pense que ça correspond à une période à laquelle je l'ai lu, qui est celle de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période très particulière dans la constitution de la personnalité. C'est une période où on a envie de se confronter au danger, et notamment à la peur. C'est-à-dire, on a envie de se tester soi-même pour voir jusqu'où on est capable d'aller, mais aussi par rapport au regard des autres. Donc moi, j'ai lu Stephen King, j'avais 12-13 ans, ce qui était peut-être un peu tôt, mais en même temps, bon, c'est peut-être aussi grâce à lui que j'écris aujourd'hui, donc ça, c'est plutôt bénéfique. Mais voilà, on absorbe beaucoup les émotions quand on a cet âge-là. De ce fait-là, on cauchemarde beaucoup, puisqu'en fait, quand on est lecteur, on emmagasine les images terribles, et elles restent en nous, et elles ressortent par les cauchemars. Donc j'étais vraiment dans une phase comme ça, très, où j'étais effrayé à la limite du traumatisme, je dirais même, ça allait assez loin. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'en empêcher. Enfin, c'était ça qui était quand même fou, c'est-à-dire il y avait cette notion de plaisir, de me dire, mais allez, je sais que je vais avoir peur, je sais que je vais passer des nuits absolument terrifiantes, mais j'y retourne. Et ça m'a toujours fasciné, ce sentiment complètement ambivalent d'avoir du plaisir à s'effrayer, finalement.
Julien Bisson, dans le 1 des libraires, vous proposez une nouvelle inédite de Stephen King. Hein ?
Oui, une nouvelle inédite qui est une introduction inédite à Shining, le grand roman de Stephen King, qui a 45 ans aujourd'hui, et qui en effet revient sur... C'était un texte que Stephen King avait écrit au moment de l'écriture du roman et qui avait été retranché vraiment juste avant la parution des scènes inédites qui sont dans le passé de cet hôtel Overlook. Et donc, publier ce texte nous permet de revoir un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer avec une personnage d'une jeune femme dans les années 20-30 qui va séjourner quelques nuits à l'hôtel, qui va faire quelques cauchemars.
Guillemette Audicino, quelle est la fiction qui vous a le plus effrayé dans votre vie, alors qu'en règle générale, vous n'avez pas peur dans les salles obscures?
Oui, alors j'ai pas peur au cinéma. Sans doute parce que, alors moi, à 13 ans, j'ai bouffé des films d'horreur absolument immondes avec des copines. À l'époque, des vidéoclubs où on allait louer des trucs, mais atroces. Donc ça m'avait un peu, en fait, vacciné. Et soudainement, il y a quelques années, une trouille bleue, à The Descent.
Alors je raconte l'histoire en deux mots. Un an après avoir subi un traumatisme profond, une jeune femme se rend en Caroline du Nord avec des amis pour explorer des grottes. C'est plutôt une mauvaise idée.
Oh mais alors, mais vraiment, mais une idée mais pourrie si vous saviez. Donc déjà, on est bien d'accord, c'est de la spéléo. Hein. Ouais. Donc on est coincé, mon Dieu, on est coincé sous terre, dans le noir, et il s'avère évidemment qu'en plus, sous terre, dans le noir, il y a des trucs. Non, je vous dis pas ce qu'il y a, parce que vous allez découvrir. En fait, ce film... The Descent m'a fait découvrir, ce qui est quand même une évidence, mais bon, bah, il faut qu'on se le rappelle, que souvent, on n'a pas peur, pas dans l'absolu. On a peur quand le film ou le livre convoque, en fait, vraiment vos peurs personnelles. Moi, je déteste être enfermée, donc alors là, mais c'était mais le pompon.
Moi, j'ai pas le regarder. Hein.
Et on a peur, et on a souvent peur de certaines choses chez Stephen King, parce que par exemple, moi, j'ai peur des clowns. Enfin, voilà. En fait, c'est ça qui compte.
Franck Tillier.
Quelle idée d'aller voir The Descent quand, quand vous avez peur d'être enfermée. Mais c'est un film que j'ai vu, que j'ai adoré, moi, parce que je pense que j'ai vu tous les films d'horreur. Effectivement, ça convoque des peurs qui peuvent être purement interne, c'est-à-dire la peur du vide, la peur de la claustrophobie, la peur d'enfermement. Ouais. Moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle Vertige, qui est de la claustrophobie. Ce sont des gens qui sont enfermés, puis les lecteurs viennent me voir, disent mais votre roman, j'ai vraiment du mal parce que je suis claustrophobe. Mais je leur dis mais ne le lisez pas.
Quelle idée. Allez, 10h22, l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, quel personnage de fiction mérite notre amitié cette semaine?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, je voudrais vous présenter l'un des amis les plus importants de mon adolescence. Celui qui m'a appris qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Un jeune homme si beau, si doux. Un grand échalas aux yeux noirs. Qui porte mieux que personne la chemise blanche et aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa maman. Norman Bates, le héros de Psychose d'Alfred Hitchcock en 1960. Avant Norman, la peur était simple. Un monstre était caché sous votre lit de petite fille, les gangsters brandissaient des revolvers dans les films noirs, les méchants des westerns avaient tous des gueules patibulaires. Mais avec Norman, soudain, la terreur devient familière et même familiale. Doit-on partir du principe que tout le monde connaît Norman? Ben non, car je suis sûre que certains d'entre vous n'ont en fait jamais vu Psychose. Ou croient que ce n'est pas la peine, car ils ont l'impression de tout connaître de ce chef-d'œuvre et se privent du coup d'un moment de trouille monumentale. Alors je vais essayer de vanter les qualités de Norman sans rien divulgâcher. Avant toute chose, cette incarnation horrifique du complexe d'Oedipe et d'une lucidité à faire peur sur le concept de liberté. À côté de lui, le philosophe Spinoza est un grand optimiste qui gambade dans les prés.
Et où est-ce que vous allez? Oh, pardon. Ça ne me regarde pas.
Je voudrais trouver une petite île déserte.
Alors vous essayez peut-être d'échapper à des embêtements.
Pourquoi dites-vous ça?
Pour rien. D'ailleurs, on ne peut pas échapper à quoi que ce soit. Vous savez à quoi je pense? Que nous prenons à notre propre piège. Et une fois que nous sommes pris, nous ne pouvons pas nous en dégager. Nous nous débattons, nous nous agitons, mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, nous faisons semblant de vouloir nous en échapper.
Il y a parfois des gens qui font exprès de s'y laisser prendre.
J'ai toujours vécu pris au piège, et je m'en accommode très bien.
En êtes-vous sûr? Croyez-vous vraiment ne plus en souffrir?
Alors si je souffre, mais je prétends que non.
Ce petit rire... Alors, mon ami est aussi... un puits d'enseignement pratique. Grâce à lui, je sais qu'il est plus prudent de rester sur la route principale si je suis seule en voiture la nuit. Mais aussi qu'il ne faut pas forcément avoir une confiance aveugle dans les hommes qui revendiquent le partage des tâches. Parce que dans son motel, il fait le ménage, et même si les chambres sont inoccupées, il tient à changer les draps tous les jours. Et vous verrez rarement un type aussi à l'aise et élégant dans l'utilisation du balai serpillière. Rapide, efficace, il vous nettoie une salle de bain en un clin d'œil, c'est nickel.
Car Psychose, eh bien, c'est avant tout cette scène de meurtre sous la douche.
Voilà, j'ai laissé un petit peu la dame crier. Oui, Ali, cette séquence qui nécessita 7 jours de tournage à elle seule et horrifia littéralement le public new-yorkais lors de la première du film, donc en juin 1960. Cette séquence où pourtant le couteau ne touche jamais la chair de la victime. Et où, pour la première fois, shocking, un cinéaste montrait un nombril féminin en très gros plan. Alors, je pourrais vous raconter tous les détails techniques, y compris des détails pour Grégory Cohen, puisque le son des coups de couteau a été réalisé en poignardant un gros beefsteak d'Aloyo et un melon. Mais je voudrais rester sur l'aspect pratique. Alors, grâce à Pierre Desproges, on savait déjà que les cintres conspirent contre nous dans les penderies. Mais grâce à Norman, j'ai appris très tôt à me méfier des rideaux de douche. Alors, ce truc qui n'a jamais empêché l'eau de sortir... D'ailleurs, on ne sait jamais s'il faut mettre le rideau de douche dans ou à l'extérieur de la baignoire. Enfin, c'est une galère. Eh ben, il n'empêche pas non plus les couteaux de boucher d'entrer. Et en plus, il colle. Mais il colle au point d'être l'emballage parfait pour un cadavre. Et dernier détail, j'ai bien compris que prendre une douche aux États-Unis est vraiment mortel pour sa mise en pli. Puisqu'avec ces satanés pommeaux fixés au mur, il est impossible de garder les cheveux secs. Donc vous voyez, à sa manière, Norman est vraiment le meilleur ami des femmes. Un vrai guide de conseils sanitaires.
Continuez. Oui, oui, bah, Psychose fait partie évidemment des films qui m'ont inspiré, qui m'ont marqué. Et là, on est vraiment dans la scène de la douche, qui est quand même une scène de pur suspense, parce qu'on a ce personnage. Le suspense, c'est le personnage qui ignore ce qui va se passer et qui continue à mener sa vie. Et puis derrière, nous, le spectateur, on sait le drame qui va se produire. Et c'est vrai que cette scène est complètement mythique.
Julien Bisson.
Oui, et puis c'est quand même un suspense. Aujourd'hui, on est habitué à des films d'horreur dans lesquels il y a un meurtre qui arrive au bout de 5 minutes et on nous met tout de suite dans l'ambiance. Dans Psychose, ça met beaucoup de temps à arriver, cette scène. Le premier tiers du film n'est pas du tout un film d'épouvante, pas du tout un film horrifique. Et donc, je vois bien, pour le spectateur de 1960, la totale surprise que ça a pu être.
L'ami du vendredi de Guillemette Audicino a partagé, à podcaster sur l'appli France Inter. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Poux-Jalagui avec l'aide d'Alice Galtier et de Luna Jamais. La réalisation a été signée Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Kevin Pelot et Alix Barrois. Dans un instant, on continue à explorer ce plaisir de se faire peur. Ce sera juste après Grace Jones, La vie en rose. Grace Jones qui fait danser Guillemette Audicino dans le studio La vie en rose.
Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse.
Grand bien vous fasse.
Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime
Ali Rebéi
qu'on ait jamais vu sur un écran.
Grand bien vous fasse loisir et on explore ce matin le plaisir de se faire peur avec le maître français du thriller Franck Tillier qui publie Le plaisir de la peur et son tout nouveau roman Labyrinthe. Racontez-nous votre goût pour les récits effrayants au 01 45 24 7000.
Paul, tu as trouvé un moyen de sortir.
Quoi ?
Tu as pu sortir de ta chambre. Paul, est-ce que par hasard tu connais l'histoire de la mine de diamants de Kimberley ? Sais-tu quel était le sort des mineurs qui avaient volé des diamants? Oh non, non, rassure-toi, on ne les tuait pas, non. Ce serait comme de jeter à la casse une Mercedes sous prétexte que la batterie serait morte. Non, les voleurs qu'on attrapait devaient pouvoir continuer de travailler. Mais aussi, il fallait faire en sorte qu'ils ne puissent plus s'enfuir. On appelait cette opération le sabot.
Annie, j'ignore ce que tu comptes faire exactement. Mais ne le fais pas, je t'en prie. Je t'en supplie, non, Annie.
Chut, chérie. Crois-moi.
Annie, Annie.
C'est pour ton bien.
Non, pitié!
Allez, plus qu'un. C'est presque fini. Dieu que je t'aime.
Des sons très évocateurs dans Misery de Rob Reiner, sorti en 1991. Je l'ai revu récemment, c'est absolument extraordinaire. Kathy Bates est fascinante. Guillemette Odissino.
Bah, en fait, quand on entend cet extrait, et puis bon, parce que aussi je pense à mon Norman, ce qui fait vraiment peur, c'est la folie. En fait, la folie, parce que tout d'un, elle peut surgir, elle est cachée souvent derrière les apparences, et elle n'a pas, par définition, elle n'a pas de raison, donc elle n'a pas de bout. Donc heureusement qu'il a que deux genoux le monsieur parce qu'elle
Frontilier.
Oui, mais d'ailleurs le monstre qui nous fait le plus peur, c'est celui qui nous ressemble le plus. Hein, c'est ce que disait Stephen King.
Et la philosophe Simone Veil disait tous nos monstres sont en nous.
Ah oui, bah, dans Labyrinthe, j'ai commencé à en signer quelques-uns, je mets des dédicaces, je mets Labyrinthe, là où se cachent nos minotaures ou nos monstres, parce qu'en fait, les monstres sont finalement au fond de chacun d'entre nous, et quand on lit ces romans-là, et qu'on voit les personnages qui sont eux-mêmes des monstres, on s'interroge sur soi-même en se disant, mais mon monstre à moi, où se cache-t-il en fait?
Julien Bisson.
Et puis on a entendu dans la bande-annonce de Massacre à la tronçonneuse, d'après une histoire vraie. Et c'est encore plus terrifiant quand on pense que c'est d'après une histoire vraie. Et les Paranormal Activity ou ce genre de choses, ce genre de films ont aussi réussi parce que c'est peut-être vrai, c'est peut-être arrivé, et ça nous fait encore plus peur pour ça.
Alors Franck Tillier, quand vous regardiez des films d'horreur ou quand vous lisiez des films effrayants, adolescent, vous éprouviez une peur bleue au point de faire de terribles cauchemars, et pourtant vous recommenciez lire tous ces livres-là de Stephen King et compagnie.
Il y avait cet attrait-là. Tout à l'heure, on parlait de l'exorciste. Moi, j'ai dû le voir à 12-13 ans. Peut-être, mes parents n'ont pas fait suffisamment attention parce que c'est vrai que c'est un film complètement traumatisant. Je pense que c'est allé jusque-là. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir peur, ça m'a touché psychiquement à un point tel que j'avais peur d'aller me coucher, que je laissais la lumière allumée, je me cachais sous mes draps, je me réveillais en pleine nuit. Et j'ai commencé à faire des cauchemars récurrents. C'est-à-dire, c'est terrible, les cauchemars récurrents parce que c'est, vous vous couchez, vous savez que vous allez faire ce cauchemar. Et quand vous êtes dans le cauchemar, vous savez pas que c'est un cauchemar. Enfin, c'est absolument terrifiant. Et j'ai continué à Les Dents de la Mer, tous ces films de vampires, de loups-garous. Enfin, c'était absolument terrifiant. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai accumulé un tas d'images comme ça qui ne ressortaient à ce moment-là que par les cauchemars. D'où peut-être, à un moment donné, le passage à l'écriture.
Comment expliquez-vous cette attraction pour les histoires sombres, tordues, étranges?
Il y a plusieurs choses. C'est vrai que moi, je me pose cette question. Je me la pose depuis 20 ans, parce que de se dire pourquoi, finalement, les gens vont acheter ces livres-là, dont ils savent que ça fait peur. Alors, je pense qu'il y a déjà l'émotion brute, qui est la montée d'adrénaline, qui est quand même une sensation de plaisir. En fait, on se rend compte que finalement, les hormones de la peur liées à l'adrénaline sont assez proches dans le cerveau de celles du plaisir. Donc, il y a avant tout cette recherche du plaisir par la peur. Il y a aussi une vraie volonté de transgression, c'est-à-dire que finalement, on est dans une société normée qui nous impose tout, et quelque part, aller un peu dans la peur, dans la violence, c'est franchir les normes sociales auxquelles on est habitué. On parlait tout à l'heure, le manège, c'est-à-dire d'avoir ces sensations
hors antenne.
D'une peur sécurisée, c'est-à-dire finalement, quand on monte dans un grand 8, on sait qu'il va y avoir un danger, mais on sait qu'on est protégé. Et c'est exactement la même chose quand on lit un livre. C'est une peur qu'on contrôle, c'est-à-dire, si je veux m'arrêter d'avoir peur, je referme le livre et ça s'arrête.
Mais comment expliquez-vous ce besoin, le besoin des lecteurs d'avoir peur, alors que nous recherchons la sécurité, nous rejetons la peur dans nos vies quotidiennes, nous prenons des anxiolytiques pour lutter contre l'angoisse? Comment vous l'expliquez?
Oui, mais il y a aussi finalement la peur, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est quand même l'émotion de la survie et du danger. Enfin, finalement, si l'espèce humaine existe aujourd'hui, c'est parce que les premiers hommes ont eu peur. Enfin, c'est la peur qui fait qu'on survit. Je cite, quand j'ai écrit Gattaca, qui est sur l'évolution, il y a une citation qui m'a marqué, mais qui m'a fait comprendre tout ce qu'était l'évolution, c'est « Le lapin court plus vite que le renard parce que le lapin court pour survivre. » En fait, c'est parce que le lapin a peur, il court plus vite et il a survécu. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une société où cette peur, on ne peut plus la tester. Avant, les araignées et les serpents, on en mourait, hein, au temps des Cro-Magnon. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces peurs-là. Donc, quelque part, aller dans ces livres-là, vers ces films d'horreur, c'est un moyen d'exercer cette peur qui est quand même nécessaire au cas où il arriverait quelque chose.
Comment expliquez-vous le succès de votre livre Pandemia, sorti avant la crise sanitaire, et beaucoup lu pendant ce premier confinement hyper anxiogène?
Mais là, c'était absolument incroyable, parce que moi, j'écris Pandemia qui ressemble très très fort à ce qui s'est passé au Covid dans les premières phases, l'isolement, enfin les premières étapes, etc. Et le livre, on ne s'est jamais autant vendu que pendant le premier confinement, le confinement dur, où on allumait la télé, c'était absolument terrifiant. Je me suis dit, mais pourquoi les gens achètent ce livre pour ressombrer dans une histoire de virus? Après, je me suis interrogé. Je pense qu'il y avait un besoin, c'est aussi le rôle des livres et des romans policiers, notamment d'apporter un regard différent sur quelque chose qui nous oppressait, qui était une vraie peur, qui était un vrai danger. Enfin, le Covid, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on ne savait pas ce qui allait se passer le lendemain. Et les gens ne comprenaient pas, ils avaient toujours la même source d'information, de se dire, je vais aller chercher dans les livres des réponses peut-être différentes qui vont peut-être me rassurer.
Ça permet d'exorciser nos peurs.
Ah oui, bah aussi, évidemment, parce que je disais, moi, en tant que spectateur de film, j'emmagasinais ces peurs-là. Quand on lit, finalement, on se rend compte qu'il y a des personnages qui vivent des... qui ont des dessins beaucoup plus complexes que les nôtres, qui vivent des aventures absolument terrifiantes. Et quelque part, ça nous rassure. Il y a une espèce de catharsis où on se dit, bah, oui, finalement, ce qui m'arrive à moi, mes petits problèmes personnels sont, voilà, c'est peu de choses par rapport à toutes ces personnes qui souffrent et qui traversent des expériences incroyables. Et c'est pour ça que d'avoir des figures qui sont très proches de nous, hein, parce que les personnages de romans sont des voisins, sont des amis, de se dire, bah voilà, eux réussissent à surmonter ces épreuves absolument terrifiantes. Donc moi, dans ma propre vie, je peux y arriver aussi.
Julien Bisson.
Est-ce que il vous arrive de vous faire peur vous-même? Je veux dire, par là, vous avez écrit, ça fait 20 ans que vous écrivez sur des catastrophes, des serial killers, des fous, des... Est-ce que ça vous arrive de vous faire peur vous-même ou au contraire, ça vous permet de domestiquer vos propres peurs?
Bah, je passe 8 heures par jour depuis 20 ans à me dire comment je vais effrayer les gens. D'ailleurs, c'est Stéphane Key qui disait « on a un sale boulot, mais il faut le faire ». Oui, alors moi, il y a quand même cette distance que je m'impose. Alors, je ne sais pas si on se l'impose, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais, un peu comme un journaliste d'investigation, un photographe de guerre, qui va mettre une distance forcément entre ce qu'il découvre et ce qu'il recherche et la personne qu'il est. Hein, on voit les images terrifiantes de guerre qui nous arrivent. Il y a bien des gens qui photographient, qui se disent, mais pour rendre cet événement, quel cadrage je vais faire? Donc, moi, c'est un peu de cette manière-là que je fonctionne, c'est-à-dire pour rendre ce fait de société qui est absolument terrifiant, le retranscrire au mieux. Comment je vais pouvoir l'écrire? Donc, j'ai cet œil assez distant par rapport à ce que je vis, ce qui n'empêche pas d'avoir parfois, de temps en temps, des périodes de transfert, c'est-à-dire quand j'imagine des histoires d'enlèvement, de rapt d'enfants. Moi, j'ai des enfants, je les emmène à l'école, ils sont un peu grands maintenant, mais je pense toujours à ça, ça m'arrive aussi.
Quelles sont les peurs qui vous hantent encore et toujours?
Alors, on va dire une peur intérieure, comme vous, la claustrophobie tout à l'heure, moi, c'est le vertige. Bon, moi, j'ai peur du vide, hein, c'est au fond de moi, ça fait partie de l'ADN, je pense. J'ai vraiment eu, je crois que la plus grande peur que j'ai pu avoir, c'est vraiment pendant cette période de confinement, justement, où pour une fois, on ne savait pas ce qui allait se passer demain. Non pas à titre personnel, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain dans nos destins, nos propres destins, mais c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain à l'échelle du monde. Et ça, c'est vraiment effrayant, parce qu'on se repose toujours sur quelqu'un, on se dit, bon, moi, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais il y a quelqu'un qui sait, et donc tout va bien se passer. Mais là, personne ne savait. Et donc, il y avait vraiment, c'est plus de l'angoisse, en fait, que de la peur.
Guillemette Audicino.
Oui, mais je reviens sur le succès de votre livre pendant la pandémie, et parce que le film de Soderbergh, Contagion, ouais, a été un film, mais surloué sur les plateformes à ce moment-là. Je crois qu'en fait, vous nous servez, cher monsieur et d'autres, aussi à faire face, en fait. Il y a une notion d'aller se plonger, en fait, dans le mal, mais à travers la fiction, et comme ça, de se donner l'illusion qu'on fait face à ça. Et ça nous donne, en fait, de la force, étrangement, de ressentir cette peur-là.
Oui, on se transfère dans des personnages. On se rend compte finalement que ce mal existe, hein, puisqu'en fait, dans les histoires qu'on écrit, elles sont très réalistes. Hein. Vous avez cité Contagion, c'est l'un des meilleurs films sur les virus, il est très réaliste. Mais en fait, ça nous confronte à des situations possibles du monde dans lequel on vit. On les vit par ces fictions et peut-être que le jour où on sera confronté, justement, d'ailleurs, c'est ce qui arrive, on sera un peu plus préparé finalement.
Que raconte Labyrinthe que vous publiez en ce moment? Pour ma part, me perdre dans un labyrinthe me fait flipper absolument.
Oui, bah c'est la peur du Minotaure. Oui, c'est la peur du monstre, encore une fois, symbolique cette fois. En fait, j'ai mis dans Labyrinthe un peu ces 20 ans d'expérience de construction du suspense. C'est un vrai roman à suspense. Il y a 5 femmes. Il y a une journaliste, il y a une kidnappée, une romancière, une psychiatre et Ariane, la mystérieuse Ariane. 5 destins.
Elle a un fil.
On se doute un peu que il y a eu un meurtre terrible au début. L'une de ces femmes est probablement une meurtrière, on ne sait pas laquelle. Et c'est cette histoire-là que le lecteur va découvrir. 5 destins complètement différents. Et ces femmes cachent un terrible secret, mais comme on est dans une mécanique, évidemment, du thriller, tout cela va s'imbriquer, s'assembler. Et moi, je joue avec ça, c'est-à-dire avec les phénomènes qui se déclenchent dans la tête d'un lecteur quand il découvre des petits éléments qui font que les histoires se rejoignent.
Tiens, Thibaut de Saint-Maurice, vous nous avez dit hors antenne que vous détestiez avoir peur au cinéma ou en lisant des thrillers.
Oui, et là, tout pourquoi ce qu'on dit depuis le début m'effraie terriblement, les extraits, etc. J'avoue que je ne lis pas, en fait.
On est là, Thibaut.
Non, voilà, parce que ça m'effraie, en fait, et je regarde jamais, j'ai même pas vu Psychose, enfin voilà, je regarde jamais tout ça.
Je vous offre la labyrinthe.
C'est ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir, alors vraiment, c'est vraiment très subjectif, hein, mais j'ai l'impression d'avoir tellement de faire d'efforts à domestiquer les peurs de la vie réelle que en fait, j'ai pas envie du tout de me replonger là-dedans dans la fiction. Alors peut-être c'est un tort, parce que peut-être qu'au contraire, si je les pratiquais dans la fiction, ça m'aiderait pour les peurs de mon existence réelle. Mais pour l'instant, je suis comme ça, extrêmement prudent.
Franck Tillier.
Bah, je pense que ça vous ferait du bien. Ouais, ça serait... c'est plutôt thérapeutique d'ailleurs. Mais en plus, on discutait un petit peu juste avant en antenne, vous disiez que vous adoriez aussi sauter dans le vide, mais finalement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire le grand saut dans le vide. Enfin, moi, je serais terrorisé à l'idée de faire ça. Mais quand on lit un livre, c'est un saut dans le vide. C'est la même chose.
Grégory Cohen.
Je comprends Thibaut. Moi, j'ai eu un film absolument horrible. Ça a été l'horreur absolue. Mes parents ne sont pas là. On est un week-end. Je suis tout seul. Je trouve une cassette VHS qu'ils avaient louée à l'époque. Je la mets. Il est 1h du matin. Je suis dans le salon. Je me mets une couette. Il fait nuit. Il n'y a personne. Et là, je lance un film qui s'appelle L'Emprise.
Sorti en 1983.
The Entity. Et c'est l'histoire d'une femme qui se fait violer par une entité néfaste et invisible. Et puis je regarde jusqu'à la fin parce que j'ai trop peur pour me lever et pour aller éteindre le magnéto. Et à la fin, alors que je ne le fais jamais, je regarde même le générique et là je lis « Ce film est tiré d'une histoire vraie. Les agressions continuent mais se sont espacées. » Et là, comment vous dire? Évidemment, pas dormi. Et ça m'a hanté pendant des... Encore maintenant, quand j'entends des bruits, je me dis, oh là, c'est peut-être l'entité qui s'embête là-bas aux États-Unis qui est venue ici.
Je crois que le film qui m'a fait le plus flipper dans ma vie, c'est, quand j'étais petit, on devait avoir le même âge, 9-10 ans, c'est Le Loup-garou de Londres.
Ah oui.
De John Landis, avec cette scène de transformation du héros. Je crois que ça m'a marqué à vie.
Et pourquoi vous infligez tout ça?
Maya Mazorette, est-ce qu'il y a un film qui t'a effrayé dans ta vie?
Oui, ce qui est la raison pour laquelle je suis un peu dans la team Thibaut aussi. Je regarde plus, sinon je fais des cauchemars. Moi, je pense à Paranormal Activity et à tous les films en général qui utilisent des caméras de surveillance. Parce que déjà, il y a un côté un petit peu clinique là-dedans. Et en plus, comme on est habitué à voir ces images-là dans un contexte policier, on se projette déjà dans l'après. On se projette déjà dans le... dans l'autopsie, quoi.
On va pas parler d'Alien, hein, parce que quand même, je pense qu'Alien, vous êtes tous... pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la peur, c'est un monument de la peur.
Ça, la bête, Alien. Au sens propre, elle est dans le ventre. Hein.
Oui, elle est dans le ventre, mais on ne la voit pas pendant les trois quarts du film. C'est ça qui est fort, parce qu'on a envie de la voir, on attend, et c'est cette attente qui génère une peur absolue. Puis ça rassemble toutes les peurs, la peur du noir, la peur du vide, la peur d'être perdu dans l'espace, c'est absolument effroyable. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué, mais quand on est romancier, on apprend beaucoup à regarder justement ces vieux films, alors les films récents aussi, parce qu'il y a une notion de réalité justement, on parlait de caméras de surveillance. Moi, Blair Witch, j'étais allé voir au cinéma. Déjà, il y a la moitié des gens qui étaient partis, qui avaient quitté à ça, parce que c'était l'une des premières fois où on voyait un film filmé un peu en réel, comme ça, avec une caméra. Les gens ne comprenaient pas, donc partaient. Mais en fait, Blair Witch, c'est juste des gens qui se perdent dans un bois avec des entités qui font du bruit autour d'eux. Il n'y a rien, il n'y a pas d'horreur. Et c'est ça la force du film.
Mais je pense qu'en fait, plus il y a de réalité. Dans vos romans, d'ailleurs, c'est souvent le cas. Hein. Plus de détails, ça vous rejoignez Stephen King là-dessus. Plus de détails sur le décor, le réel, les gens, le petit commerce d'à côté, le décor du commissariat, etc. Et plus soudainement, quand l'horreur arrive ou quand le suspense commence à monter, là, du coup, il prend une force d'autant plus parce qu'il s'invite dans une réalité, dans une crédibilité totale. Et c'est ça qui marche le mieux dans certains livres aussi.
Oui, hein. Oui, bah c'est l'ambiance. On en a pas parlé, mais l'ambiance est essentiel dans les films ou dans les romans. Dans Labyrinthe, j'ai un des personnages de ces cinq femmes qui s'est réfugié dans une cabane au fin fond d'une forêt des Vosges parce qu'elle est hyper électrosensible, elle supporte plus les ondes. Donc elle est toute seule, il fait moins 20 degrés, il y a de la neige et on se doute, même s'il se passe rien, on sait qu'il va se passer quelque chose parce qu'on est dans ce genre-là et on attend ça. Et déjà, ça fonctionne en fait en soi. Donc ça, c'est ça qui est fort aussi dans ce genre littéraire.
Allez, 10h46, l'heure de retrouver le philosophe le plus chic de France Inter, Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Chic mais un peu trouillard quand même.
C'est ça. Alors Thibaut, on passe des plaisirs de la peur. Alors Anvers, vous nous proposez d'explorer les dangers de la peur.
Oui, désolé, donc on va être un petit peu rabat-joie, rabat-frisson, rabat-plaisir donc. Mais il faut bien dire que la peur et ses plaisirs, c'est pas vraiment le truc des philosophes. C'est même plutôt l'inverse. De façon générale, les philosophes ont peur de la peur. Ils voient dans la peur à la fois une des passions, certes, les plus caractéristiques de notre humanité, notamment parce que nous avons peur de la mort. Et en même temps, cette peur, c'est ce qui menace le plus notre sagesse, notre bonheur, notre liberté, ce qui est un peu le tiercé gagnant des buts d'une vie réfléchie. D'abord, la peur, c'est effectivement un fait qui s'impose à nous. On ne choisit pas d'avoir peur. Vous parliez d'émotions brutes tout à l'heure, mais on la découvre en nous. Avant d'être un danger, elle est un signal du danger. Et ça, c'est plutôt pratique parce que ça nous empêche de faire n'importe quoi et ça nous permet donc de percevoir des limites. Mais elle peut aussi rapidement devenir envahissante et nous rendre rapidement incapables de toute initiative et de tout raisonnement.
Il s'agit donc de dépasser ses peurs pour ne pas se laisser envahir par elle.
Oui, le premier danger de la peur, c'est de paralyser notre réflexion. Le philosophe Pascal, par exemple, dans ses Pensées, prend l'exemple du vertige. Il dit « on a beau marcher sur un pont solide et avoir reçu toutes les garanties qu'il ne s'effondrera pas, eh bien toutes ces raisons n'empêchent pas la peur du vide et rend l'éventuelle traversée bien difficile. La raison ne met pas le prix aux choses, nous dit Pascal. Savoir ne suffit pas à dissiper la peur. Tous les enfants qui ont peur du noir et des monstres cachés donc dans les coins de leur chambre le savent bien. Il suffit pas de dire que les monstres n'existent pas pour dissiper la peur. Le deuxième danger de la peur, c'est de troubler la tranquillité de notre âme. Comment espérer être sage, vivre heureux si nous sommes envahis par la peur de la mauvaise fortune, la peur de la mort, la peur des différentes souffrances que la vie peut nous faire subir? Toute la philosophie d'Épicure et une grande partie de la philosophie antique repose sur le souci de dépasser nos peurs. Alors non pas de les annuler, parce que ça c'est impossible, mais d'en annuler les effets en les compensant par une éthique de vie fondée sur le plaisir, mais pas celui de la peur. L'équation est simple. Contre la peur et ses intranquillités, il faut prendre plaisir à vivre, ici et maintenant, entouré d'amis, dans les limites de l'ordre naturel. Toute la philosophie antique, je le disais, donc, en tant qu'elle nous invite à la sagesse, nous invite en fait à mener une vie libérée de la peur. Et puis enfin, un troisième danger de la peur, c'est son utilisation politique. La peur est une arme de manipulation massive des populations. Machiavel, déjà, dans Le Prince, expliquait qu'elle était même plus efficace pour se faire obéir que la justice. Et plus près de nous, la peur de l'autre a été utilisée et est encore utilisée pour justifier l'entrée en guerre contre un autre pays ou la surveillance généralisée d'une population. La peur, c'est aussi une stratégie politique qui met en péril nos libertés fondamentales et ruine la possibilité d'un vivre ensemble. Et pour lutter contre cette politique de la peur, eh bien, il n'y a, je crois, que le respect des droits de chacun et le souci d'une forme de vie qui fasse le pari de la confiance. D'ailleurs, c'est peut-être ça la meilleure arme contre la peur et ses dangers, qu'ils soient psychologiques, éthiques ou politiques. Travailler la confiance en soi, la confiance dans les autres, à tous les étages de notre vie.
Franck Tillier.
Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, la vraie peur, elle n'est pas du tout agréable. J'ai une citation de Maupassant qui disait « La peur, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur. » Il souffrait de terreur nocturne, il passait des nuits abominables. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, la vraie peur, je prends toujours souvent l'exemple du soyastique, vous êtes au bord d'un précipice, c'est différent d'avoir un élastique accroché dans le dos et de ne pas avoir d'élastique si on vous dit de sauter. La vraie peur, vous pouvez deviner laquelle c'est. Et la peur plaisir, c'est celle avec l'élastique. Et c'est ça, la vraie peur, c'est abominable.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice a podcasté sur l'appli France Inter. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures terrestres avec notre chef Grégory Cohen. Alors Grégory, pour ce week-end, on soigne l'apéro.
Ah oui, on soigne l'apéro parce que parfois, absolument sans transition, on a peur de recevoir les gens, on ne sait pas quoi faire. Et donc on va enlever cette peur. On va faire par exemple une feta rôtie.
Ah, je l'ai faite cette semaine.
Ah, alors ?
Magnifique.
Bon, ben voilà. Donc, la feta rôtie au piment d'Espelette. On aura donc besoin d'une feta, de piment d'Espelette, d'huile d'olive et le déroulé d'une simplicité absolue. Maya, cette recette est pour vous.
Inratable.
Voilà, parce que je vous vois un peu partir derrière, mais dès que je parle de recette, mais là, écoutez-moi. Simplicité absolue, on met la feta dans un plat. Un plat qui va au four, Maya, évidemment.
Oh là là.
Ensuite, on fait couler un filet d'huile d'olive dessus, on saupoudre de piment d'Espelette, on enfourne à 200 degrés pendant 5 minutes. Et ensuite, là, il y a un petit truc, 5 minutes de plus, sous le grill. Et puis c'est fini, voilà, la feta est prête. Sous le grill du four, vous
verrez. C'est un instrument de torture, ça ?
Non, non, ça passe, ça va bien se passer d'ailleurs.
Et la feta rôtie cuite a un goût beaucoup plus doux, hein, beaucoup plus onctueux. Hein.
Alors oui, elle est moins acide, du coup elle est beaucoup plus douce. L'huile d'olive vient la faire frire un petit peu, du coup elle va être fondante, un peu plus fondante. Et le piment d'Espelette va... relever un petit peu ses notes. Alors on a aussi une je vais vous donner aussi une recette assez rapide pour sublimer votre panier de crudités, parce que on peut imaginer que à un moment il me reste des choux-fleurs, des carottes,
des
un peu de concombre, ce qu'on veut, et ben je vais vous faire la recette de l'anchoyade. L'anchoyade pour le panier de crudités. Alors c'est 125 grammes d'anchois dessalés et nettoyés, un quart d'oignon nouveau ou de cébette, une poignée de feuilles de persil plat, une demi-gousse d'ail dégermée, parce que sinon ça reproche, 20 centilitres d'huile d'olive, une pincée de sucre fin. Alors on va mixer le tout, c'est-à-dire l'ail, le persil, le sucre, on va ajouter les anchois. Et dès que le mélange est assez lisse, on va monter avec l'huile d'olive, un peu comme une mayonnaise. Et puis, c'est prêt. Ça va complètement changer votre expérience de la carotte et vous allez en être bouleversé. Maya, je vous vois me regarder comme ça, là, c'est incroyable. Et puis allez, la dernière pour faire plaisir... La pizza frite napolitaine.
Oula.
Alors en Italie, à Naples, on fait des pizzas frites. Là, on va aller chez son boulanger et on va acheter de la pâte à pain non cuite. Ça coûte pas cher du tout. C'est le prix d'une baguette de pain et on va pouvoir l'utiliser comme de la pâte à pizza. On l'étale. On va prendre 10 billes de mozzarella di bufala, 60 grammes de roquette, évidemment de l'huile de friture, une petite boîte de tomates pelées concassées ou alors en fonction de la saison, des tomates fraîches, c'est mieux. Deux branches de basilic frais, 3 cuillères à café de concentré de tomate, et puis un petit peu d'huile d'olive. C'est parti, on va mélanger la roquette, la mozzarella, la tomate avec l'huile d'olive. On étale sa pâte, on la découpe en triangle, un petit peu comme des parts de tarte. Et puis on va faire une boule vers la pointe. On va la replier, une boule avec la roquette, la tomate, la bille de mozzarella et puis le basilic. On replie, on roule et on rabat les côtés de manière à avoir une forme hermétique, on boule dans sa main et puis on met à frire à 180
combien
degrés. 180 degrés, il faut qu'elle colore, ça va hyper vite, la mozzarella aura fondu. C'est une recette hyper simple à faire qui est exceptionnelle.
Vous cuisinez, Franck Tillier ?
Un tout petit peu.
Tiens, je vous mets au défi dans votre prochain roman de mettre cette expression « ça reproche ».
C'est ma grand-mère, ça.
La recette de Grégory Cohen, eh bien, on la retrouve sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off Off avec
deux F.
Et on peut lire évidemment votre livre qui sort aujourd'hui, Partage aux éditions de La Martinière. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette.
Bien fait cette fois-ci.
Et avant ça, on écoute Arlo Parks à 10h54.
Change, have I just missed the memo?
qu'est-ce que c'est bon, Arlo Parks interprété Softly.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obsédé par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et il est temps de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. Maya, la chronique sexe nous fait trembler ce matin.
Absolument. Et puis on va aussi faire un tout petit peu de science. Je vous rassure, la science pour les nuls. Thibaut, est-ce que t'es bien concentré? Très bien. Bon, dans notre cerveau, la partie qui analyse les signaux effrayants s'appelle l'amygdale. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Bon alors. En 2017, le journal scientifique Neurone a montré que la plupart des neurones de l'amygdale sont également impliqués dans notre circuit de récompense. Donc, dans notre recherche des activités qui donnent du plaisir, je ne vais pas faire de raccourcis et prétendre que deux émotions qui utilisent le même câble sont identiques, mais il semble qu'il y a un lien cérébral entre le plaisir et la peur. Ce lien, on peut l'utiliser pour écrire des best-sellers, mais on peut aussi l'utiliser au lit.
Et il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Hein.
Exactement, plein d'études et plein de théories qui remontent jusqu'aux années 60. Le transfert d'excitation du psychologue Dolph Zillmann, les expériences de mésattribution de l'excitation de Dutton et Aaron, la théorie du stress maximal de Heiner Mühlmann. Tous ont essayé de trouver des liens entre peur et désir, entre peur et plaisir, et ça ne s'est jamais arrêté depuis. En 1983, une étude a montré que le pénis des hommes gonflait plus vite si on les menaçait de subir des décharges électriques. Voilà, je laisse cette information à disposition des personnes qui veulent motiver leur partenaire masculin. Oui, Guillemette, je sais, il faut être équipé pour faire ça, mais il y a le concours Lépine en ce moment, on n'est jamais à l'abri d'une bonne invention.
Je suis très bonne bricoleuse, tu sais.
Très bien, tu me diras. En 2013, une autre étude a montré que si on montre aux femmes un film érotique juste après qu'elles aient vu un film effrayant, elles vont être plus excitées que la normale. Alors ensuite, attention, il y a peur et peur. Si vous dites à une femme qu'elle va recevoir un choc électrique, par exemple, là, ça va décroître son excitation. C'est pareil pour la peur de tomber enceinte, la peur de pas être assez performante. En fait, il faut que le motif d'anxiété reste léger ou qu'il reste de l'ordre du jeu. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles en sexe, on joue souvent à se faire peur quand on s'attache, quand on se bande les yeux, quand on pourrait être surpris par la police, quand on couche avec un collègue. On sait qu'on risque pas grand-chose, mais quand même, il y a un tout petit doute qui fait son effet.
Et est-ce que le plaisir peut faire peur?
Carrément, et cette peur, elle porte un nom, l'hédonophobie. Les hédonophobes ont tendance à se sentir coupables de ressentir du plaisir, soit parce qu'ils ont été éduqués à trouver ça mal ou ridicule, soit parce qu'ils ont l'impression de ne pas mériter le plaisir. Mais c'est sur un autre pouvoir magique du sexe que je voudrais terminer. Dans l'étude de 2013 dont je vous parlais à l'instant, les chercheurs ont constaté que si on traitait à leur cobaye un film excitant avant d'enchaîner sur un film effrayant, les femmes avaient moins peur. Il est donc possible que l'excitation sexuelle diminue la réaction de peur. Alors, c'est pas forcément un antidote absolu, mais s'il y a des auditrices qui osent pas lire les bouquins de notre invité parce qu'elles sont trouillardes, eh ben, elles pourraient peut-être essayer de faire l'amour avant.
La chronique sexe de Maya Mazorette à réécouter seule, à deux ou à plusieurs sur l'appli France Inter. Merci beaucoup, Julien Bisson. Le 1 des libraires, Pourquoi nous aimons la peur, est disponible en kiosque avec un entretien de Franck Tillier avec une nouvelle inédite de Stephen King. Merci beaucoup, Franck Tillier, d'être venu. Labyrinthe est publié au Fleuve Noir et Le plaisir de la peur, votre essai dans la collection secrète d'écriture, est disponible au Robert et au Fleuve Noir. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 9h30 dans Bel et Bien sur France 2. Et lundi, on se bat tous ensemble pour la santé cardiaque des femmes trop longtemps négligée. Nous attendons toutes vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter.